Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. RFI Midi, présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Nous sommes ensemble pendant 2h30, tour du monde de l'actualité avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et nos invités. Une fois encore aujourd'hui, c'est une décision de Donald Trump qui fait la une, décision qui contredit celle de la veille. Les droits de douane tant mis en avant sont suspendus pour 3 mois. Ils auront permis d'entamer des négociations commerciales en position de force, selon le président états-unien. Négocier, c'est bien ce que compte faire l'Union européenne. Nous verrons comment dans une demi-heure. Plusieurs industries du continent, comme l'automobile, ont beaucoup à perdre. La France va-t-elle reconnaître un État palestinien ? Emmanuel Macron assure que oui, qu'il le fera au mois de juin lors d'une conférence organisée avec l'Arabie Saoudite. Et ça n'est pas anodin car le président français attend aussi de Riyad une reconnaissance d'Israël. L'Arabie Saoudite y est moins disposée qu'avant le début de la guerre à Gaza. Analyse dans un peu plus d'une heure avec notre invité. On verra aussi ce qu'en pense la classe politique française. Entretien dans un quart d'heure avec la députée La France Insoumise, Manon Meunier.
RFI Midi.
Nous irons à Kinshasa, d'où sont partis 3 Américains qui avaient été condamnés pour participation au coup d'État manqué du mois de mai dernier. Retour aux États-Unis. Tous les 3 ont été immédiatement inculpés par la justice de leur pays. Des détails à 12h30, temps universel. Et puis nous appellerons notre confrère haïtien Franz Duval, rédacteur en chef du grand quotidien Le Nouvelliste, pour parler de ces nouvelles attaques de gangs à Port-au-Prince. Elles ont coûté la vie à 3 policiers hier. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Nous sommes... c'est l'heure du journal, pour commencer. Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Avec un vent de fronde dans l'armée israélienne.
Oui, malgré la pression de la hiérarchie militaire, des soldats dénoncent une guerre qui n'en finit pas à Gaza. Un groupe de près de 1000 réservistes a rendu public un courrier qui exige le retour des otages, même si cela doit signifier la fin de la guerre contre le Hamas. Abla Jonaidi, bonjour, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Jérusalem. Jérusalem, Abla, où plusieurs journaux israéliens relaient ce courrier.
Oui, ce n'est pas le premier courrier du genre à être publié depuis 1 an et demi, mais le nombre 970 signataires fait son effet visiblement. Après les menaces pour empêcher sa publication, l'état-major et le ministère de la Défense ont décidé de renvoyer les signataires actuellement mobilisables. L'état-major est soutenu en cela par le cabinet du Premier ministre. Il qualifie ce matin le groupe d'extrémistes marginaux qui tentent une fois de plus de briser la société israélienne de l'intérieur. Pourtant, cette lettre n'appelle pas à un refus général de servir, selon les militaires qui l'ont signée. Elle enjoint le gouvernement à donner la priorité à la libération des otages plutôt qu'à la poursuite de la guerre. Une guerre qui, selon eux, sert désormais des intérêts politiques et personnels. Une formule qui a fait tiquer. Elle est souvent entendue chez l'opposition politique et Benjamin Netanyahou et c'est chez certains proches des otages aussi. La poursuite de la guerre, disent les réservistes, entraînera la mort des otages, des soldats et des civils innocents. Par le passé, plusieurs réservistes avaient refusé de retourner à Gaza où des experts de l'ONU ont estimé que les méthodes de guerre israéliennes correspondaient aux caractéristiques d'un génocide. Le mois dernier, 2 soldats israéliens qui protestaient contre la reprise des bombardements ont été renvoyés par leur hiérarchie.
Abla Jounaidi en direct de Jérusalem, merci à vous. Une reconnaissance de la Palestine par la France serait une récompense pour le terrorisme. Ainsi a réagi le ministre israélien des Affaires étrangères au projet dévoilé hier par Emmanuel Macron. Paris pourrait reconnaître dès le mois de juin un État palestinien. À l'inverse, une ministre palestinienne a salué l'annonce française, y voyant un pas dans la bonne direction. Et en France, la classe politique est divisée, même si dans l'ensemble les réactions sont favorables. Ainsi, Yael Braun-Pivet, ce matin sur France Inter, la présidente de l'Assemblée nationale a préconisé une solution à 2 États, mais avec des garanties de sécurité pour les 2.
La bourse reprend des couleurs.
Oui, depuis ce matin, les bourses mondiales ont repris le chemin de la hausse, revigorées par la volte-face de Donald Trump sur les surtaxes douanières. La débâcle d'hier s'est transformée en euphorie. Le président américain ayant annoncé pour tous les pays une suspension pendant 90 jours des taxes à l'importation, à l'exception notable de la Chine. Les droits de douane américains restent à 125% pour les produits chinois. De son côté, la Chine a imposé des surtaxes de 84% aux importations américaines. américaine.
Le soulagement est réel chez les partenaires des États-Unis.
Oui, même si la guerre commerciale est loin d'être finie, les taxes sur l'acier, l'aluminium, l'automobile sont toujours d'actualité et les effets sur l'emploi se font déjà sentir. Tata Steel, le géant indien de l'acier, projette de supprimer 1600 emplois aux Pays-Bas. Il met en avant une faible demande en Europe ainsi que les tensions commerciales du moment. Pour les syndicats européens, ce n'est qu'un début et bien d'autres secteurs sont menacés. Écoutez Ludovic Voûte de la Confédération européenne des syndicats.
On aurait jusqu'à 720 000 emplois qui pourraient être directement menacés, majoritairement dans des secteurs industriels stratégiques. Évidemment, on parle ici de la métallurgie, de l'acier, de l'aluminium, qui sont déjà des secteurs qui sont en difficulté avant même que les tarifs arrivent. On parle évidemment aussi de l'automobile. Et donc, on est ici face à des emplois qui souvent sont des emplois qualifiés, de haute qualité, stables, et qui sont aussi souvent dans des régions qui ont déjà vécu des vagues de désindustrialisation ou des difficultés économiques pour ceux qui en tout cas sont dans les secteurs industriels. Et donc c'est pas des abstractions, les impacts de ces tarifs douaniers, ça tombe directement sur des ouvriers, des techniciens, des chaînes de production dans des régions qui sont en difficulté et qui risquent de l'être encore plus.
Ludovic Voûte de la Confédération européenne des syndicats avec Anne Verdaguer. Avec au moins 184 morts, le bilan de la catastrophe à Saint-Domingue continue de s'alourdir. Les secouristes ont pratiquement perdu tout espoir de retrouver des survivants dans les décombres d'une discothèque dont le toit s'est effondré pendant un concert.
On s'intéresse maintenant aux relations États-Unis-Russie.
Les deux pays tiennent actuellement à Istanbul en Turquie des discussions consacrées, je cite, à la stabilisation des opérations de leurs ambassades respectives. Le département d'État a confirmé l'information donnée par une source diplomatique. Le conflit en Ukraine, pourtant central entre les deux pays, n'est officiellement pas à l'ordre du jour. Pierre-Olivier, après s'être réchauffé, les relations se tendent à nouveau.
Même si Donald Trump a tout récemment épargné la Russie qui passe entre les gouttes de ses droits de douane, un vent froid semble de nouveau souffler entre Washington et Moscou. En cause, le dossier ukrainien au point mort. Donald Trump avait pourtant promis de régler le conflit en 24 heures, mais il y a 4 jours lundi, le président américain a laissé transparaître sa colère face au bombardement continu de la Russie en Ukraine. « Je ne suis pas content, ils bombardent comme des fous », lâche-t-il alors. La trêve proposée fin mars par les États-Unis et l'Ukraine semble donc avoir plus que jamais du plomb dans l'aile. En début de semaine, le Kremlin a de son côté estimé que de nombreuses questions restaient à régler en vue d'un accord de cessez-le-feu global. Une position qui agace Donald Trump. Après avoir joué l'apaisement avec son homologue russe, une question se pose désormais. Donald Trump et son administration seront-ils prêts à mettre réellement la pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre?
Ajoutons cet échange de prisonniers, la russo-américaine Ksenia Kerina, libérée en échange de la libération d'un ressortissant germano-russe, Arthur Petrov. En France, plus particulièrement en région parisienne, les jeunes hommes issus de l'immigration subissent des contrôles policiers visant à les évincer de l'espace public. C'est ce que révèle une étude de deux chercheuses en sciences politiques soutient à la défenseur des droits. Ces jeunes sont empêchés de se regrouper, considérés comme indésirables dans les commissariats de police. Quant aux contrôles et aux amendes infligées, ils sont jugé excessif. Tanita Fallet.
Dans les notes d'un commissariat parisien, une consigne évincer les indésirables. Alors la chercheuse Magna Boutros s'est demandé qui ils étaient, ces indésirables. Elle se penche sur une enquête qui avait été menée par l'IGPN, la police des polices.
Il s'agit principalement d'hommes jeunes qui sont originaires de l'immigration postcoloniale, principalement subsaharienne et nord-africaine.
L'objectif, c'est qu'ils disparaissent de l'espace public, même s'ils n'ont pas commis d'infraction, souligne la chercheuse à Sciences Po.
Dans 75% des cas, ils ne constatent aucun comportement incivil ou délictuel qui pourrait justifier de cette intervention policière. Donc souvent, les policiers vont écrire « Nous sommes en présence d'une dizaine d'indésirables, rien à signaler ».
Et pour ces groupes, le moindre crachat par terre est sanctionné par une amende. Aline Dayer a commené l'enquête.
Même s'ils reconnaissent une partie importante des infractions pour lesquelles les policiers les verbalisent, c'est la disproportion du nombre d'amendes qui les fait parler d'abus.
Ils se retrouvent avec d'énormes dettes allant jusqu'à plus de 30 000 euros pour l'un d'entre eux.
À un mois de l'ouverture sur la Croisette, les dirigeants du 78e Festival de Cannes dévoilent actuellement la sélection officielle. Comme chaque année, une vingtaine de films seront en compétition officielle en lice pour succéder à Nora, film Palme d'Or 2024. La présidence du jury a été confiée à Juliette Binoche, l'une des stars françaises les plus connues à l'international, pour une édition du festival qui se déroulera du 13 au 24 mai.
Enfin de la musique avec un festival qui a lieu en ce moment aux Açores.
Oui, mettre à l'honneur la musique d'avant-garde de tous les continents, c'est la promesse du festival Trémor, donc organisé actuellement aux Açores, au beau milieu de l'Atlantique. Sa 12e édition propose un artiste congolais, talentueux, Oko Ebombo, qui présente son premier album intitulé Free Emotions. Envoyé spécial de RFI aux Açores, José Marino.
Oko Ebombo est un chanteur, auteur, compositeur, mais aussi poète et danseur congolais de 42 ans. Artiste total et nomade, à 20 ans, il traverse les États-Unis et collabore avec de grands noms du jazz comme Mustapha Ahmed. Mais c'est surtout sa rencontre inattendue avec David Bowie à New York qui va changer sa carrière à jamais. Il lui dédie même ce titre « Black Bowie ».
Silver and gold. Eyes, tears do not abandon you. A woman must kiss.
La voix magique du Congolais habite une musique au maillage indescriptible, tant ses couleurs afro-jazz, rumba, funk et électro ont été remixées pour former une palette à l'originalité viscérale. Ses chansons profondes, en anglais, français et lingala, sont autobiographiques et parlent d'exil, de Brazzaville, de quête de soi et de sa mère. José Marinho, Festival Trémor, Açores, RFI.
Voilà le chanteur Oko Ebombo, festival Trémor qui continue aux Açores jusqu'à samedi. Très bonne journée sur RFI, dans les médias en compagnie d'Anne Cantner.
Merci Gilles Moreau, à tout à l'heure. Nous sommes en France pendant 20 minutes, sur l'île de la Réunion pour commencer, dans l'océan Indien où l'épidémie de chikungunya est désormais généralisée et majeure selon les autorités sanitaires.
RFI. France à midi.
Plus de 27 500 personnes ont déjà contracté le virus, dont 6 300 pour la seule semaine dernière. Le chikungunya se répand. Cette maladie provoque généralement de la fièvre, des douleurs articulaires et des éruptions cutanées parfois. Pendant quelques jours seulement, mais les symptômes peuvent être plus graves, notamment pour les personnes âgées ou bien pour les plus fragiles. Alors les autorités ont décidé de vacciner. Reportage Lola Fourmi.
Depuis 4 jours, à La Réunion, les pharmaciens et médecins peuvent vacciner contre le chikungunya. 40 000 premières doses ont été livrées, comme ici, à la pharmacie de la Trinité.
Alors, ça c'est le vaccin X-Chik. C'est le vaccin qui est préconisé pendant l'épidémie du chikungunya.
Paul Dumas est pharmacien et face à cette campagne inédite, il faut rassurer autour du tout nouveau vaccin créé par le labo franco-autrichien Valneva. Expliquer par exemple qu'il n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'ARN messager utilisé contre le Covid.
C'est un virus de chikungunya atténué qu'on injecte au patient et le patient va développer des anticorps contre le chikungunya et après il sera protégé par rapport à ce virus.
Protégé au bout de 15 jours après l'injection et pour au moins 3 ans. Malgré tout, certaines personnes hésitent encore, comme Bernadette.
Je veux en même temps parce que j'ai un problème cardiaque et en même temps je ne veux pas parce que j'ai fait trop de vaccins ces derniers temps. Mon mari va le faire. Lui, il attend ça avec impatience et les habitiques, c'est sûr qu'il va le faire.
Pourtant, les 10 doses quotidiennes réservées dans chaque pharmacie aux plus de 65 ans souffrant de comorbidité trouvent preneur. Patrick a 76 ans, de l'asthme et un problème au rein, il a donc saisi l'occasion de cette injection gratuite avec une ordonnance.
C'est par sécurité, en fait. On trouve que c'est idiot de risquer de tomber malade pour une absence de vaccin. Donc, il existe, autant le faire. J'ai mes petits voisins qui viennent de l'avoir tous les deux, 39 de fièvre, 3 jours malade, pour pouvoir se traîner. J'ai pas envie de vivre ça, quoi.
puis, moi, je crois à la vaccination.
Et pour se donner du courage, Patrick n'est pas venu seul.
Cathy, j'ai 61 ans. Du coup, je suis la conjointe de Patrick et je voulais me faire vacciner en même temps, même si je ne suis pas éligible du coup au vaccin, puisque je suis trop jeune et je n'ai pas de comorbidité. Donc, mais bon, bah, j'ai payé mon vaccin et je me fais vacciner en même temps que lui pour éviter que, éventuellement, si moi je l'attrape avant qu'on soit immunisés tous les deux, c'est une sécurité pour nous deux en fait aussi. Et puis, bon, j'ai appris que pour les femmes enceintes, c'était un petit peu très compliqué. On a une fille qui va peut-être être enceinte, donc du coup, j'ai pas envie de ramener ça dans son jardin ou sur elle. Je crois que c'est une sécurité pour tout le monde.
Un vaccin coûteux pour ceux qui ne sont pas pris en charge. Prix de vente conseillé, 190 euros. Une injection qui, pour l'heure, n'est pas recommandée aux femmes enceintes et aux enfants.
RFI Midi.
Comme chaque jour, l'entretien politique. Véronique Rigolet, vous recevez aujourd'hui Manon Meunier, députée La France Insoumise de la Haute-Vienne.
Bonjour Manon Meunier.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Alors merci. Que l'Europe, la France respire un peu mieux aujourd'hui après l'incroyable volte-face de Donald Trump qui a mis sur pause hier soir ses surtaxes douanières. Un répit pour quoi faire? On va bien sûr en parler. Mais pour commencer, Manon Meunier, eh bien j'aimerais avoir votre réaction, votre sentiment à l'annonce, également en surprise hier, du président Macron, qui à son retour d'Égypte, eh bien, a dit souhaiter que la France reconnaisse l'existence d'un État palestinien en juin prochain. Enfin, dites-vous.
Oui, enfin. Écoutez, tout arrive finalement. Aujourd'hui également, Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a reconnu qu'elle n'aurait pas dû employer le terme de soutien inconditionnel à Israël. Donc, effectivement, nous sommes heureux de constater ces reculs des groupes macronistes sur ces sujets, alors que nous comptons des dizaines de milliers de morts innocents à Gaza, dont des enfants, dont des femmes, et nous le rappelons chaque semaine à l'Assemblée nationale avec le groupe de la France Insoumise. Nous rappelons également en réalité que 145 pays membres de l'ONU sur 193 ont déjà reconnu l'État palestinien et que c'est absolument fondamental si on veut envoyer un signal diplomatique fort pour la préservation de ces enfants et de ces femmes victimes à Gaza.
Une reconnaissance de l'État palestinien qui pourrait donc se faire en juin lors d'une conférence internationale que la France va coprésider avec l'Arabie Saoudite et qui doit également conduire, en tout cas souhaiter le président Macron, à la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays. Est-ce là, eh bien, la bonne dynamique pour relancer l'appel, la fameuse solution à deux États ?
Alors nous sommes clairs sur ce sujet. Nous voulons en premier lieu qu'il puisse y avoir en réalité une paix, une reconnaissance effectivement de ces deux peuples, mais de manière à ce qu'il puisse y avoir une réouverture du dialogue et en premier lieu un cessez-le-feu pour cesser ces morts, encore une fois, des dizaines de milliers de morts à Gaza, dont nous ne parlons pas suffisamment en réalité aujourd'hui en diplomatie française. Il y a eu de nombreux écarts de la part du gouvernement en soutien inconditionnel à Israël et nous devons rétablir cela.
Mais vous validez cette idée que, bien sûr, ça passera par la reconnaissance de l'État d'Israël pour un certain nombre de pays arabes.
Il va falloir en tout cas qu'il y ait du dialogue en ce sens. Mais bien sûr, nous devons en premier lieu déjà assurer un cessez-le-feu et reconnaître la Palestine.
Alors de quel État palestinien parle-t-on? Parce que le président Macron a également précisé, à l'instar d'ailleurs du plan arabe pour Gaza, et bien que le Hamas devra être tenu à l'écart de la gouvernance de Gaza au profit du retour de l'autorité palestinienne.
Bien, écoutez, sur ces sujets, nous devons. Alors, on a aussi eu un appel hein, d'Israël ici qui parle de reconnaissance d'une sorte de reconnaissance de terrorisme. Il faut qu'on regarde ce qui se passe en réalité de la part du gouvernement israélien qui met en place aujourd'hui des méthodes absolument absolument désastreuses qui sont justement de l'ordre du terrorisme pour le peuple palestinien.
Vous voulez dire à l'instar du Hamas? Vous mettez les deux en face à face.
Alors, je ne suis pas là pour donner les points, évidemment, et pour mettre face à face un gouvernement contre le groupe du Hamas. Je suis là pour parler de ces vies palestiniennes qui souffrent, tout comme les vies israéliennes ont été mises en danger aussi. Nous devons reconnaître qu'une vie israélienne vaut une vie palestinienne et qu'il est temps d'avoir un signal diplomatique fort.
Alors, pour le moment, cette reconnaissance, elle est purement déclaratoire. Il il faudra que cela passe par le Parlement.
Alors nous avons déjà porté à la France Insoumise une résolution, une proposition de résolution pour reconnaître l'État palestinien.
Donc vous êtes prêts, vous?
Nous sommes prêts, effectivement. Nous le proposons en réalité depuis des années et c'est un signal que nous avons envoyé à Emmanuel Macron depuis fort longtemps.
Est-ce que vous vous réjouissez également, Manon Meunier, que cette possible reconnaissance de l'existence d'un État palestinien eh bien mette à mal les fameux projets de Riviera de Donald Trump à Gaza?
Non,
en alors, relançant
là. Enfin, oui, évidemment, c'était absolument scandaleux d'en arriver là, et le traitement médiatique qui en a suivi l'a été également, et nous l'avons dénoncé. Mais c'est à l'image de ce que Trump fait. Bah, par ailleurs, c'est notre sujet juste après. C'est-à-dire que Trump envoie des bombes diplomatiques, des bombes politiques sur le plan international et attend que les choses explosent.
Le président américain qui a de nouveau pris tout le monde de court hein, hier en suspendant pour 90 jours les surtaxes douanières imposées au monde entier, à l'exception notable de son rival chinois, matraqué désormais à plus de 125%. Qu'est-ce que vous inspire cette volte-face de Donald Trump, Manon Meunier, à cette gestion pour le moins brutale, imprévisible des destinées économiques du monde ?
Donald Trump joue une politique ici aléatoire. Il joue dangereusement en premier lieu avec les concitoyens et concitoyennes américains, d'ailleurs, qu'il met en danger, mais aussi, évidemment, avec la diplomatie mondiale. La France et l'Europe doivent saisir, en réalité, ce contexte international comme une opportunité. Parce que nous avons un signal fort qui est envoyé par Trump, c'est que nous ne sommes plus en situation de sécurité internationale et nous devons rentrer dans une stratégie de souveraineté au niveau français et
alors,
au niveau européen.
Concrètement, ça veut dire quoi ?
Concrètement, ça veut dire par exemple qu'en France, sur les questions agricoles, aujourd'hui, nous ne voulons à la France insoumise ni trumpisme, ni macronisme. Pas de macronisme parce que nous voulons cesser avec ce libre-échange à outrance où finalement on va s'aligner avec les normes moins-disantes de l'international pour être soi-disant toujours plus compétitif. Mais en réalité, ça retombe sur les agriculteurs qui ne réussissent plus à produire, à vivre dignement de leur travail, et on remet en question notre souveraineté alimentaire. On tombe dans des sur-spécialisations où on ne produit plus pour nourrir le peuple français, on produit pour exporter. Ça, nous voulons cesser et sortir de ces traités de libre-échange. Ni trumpisme non plus, parce que le trumpisme, finalement, c'est de mettre des droits de douane aléatoires, alors que nous voulons, à la France insoumise, un protectionnisme solidaire, c'est-à-dire penser où on met les droits de douane en fonction des besoins de la population française. Et par exemple, l'Europe doit se poser des questions sur sa souveraineté industrielle en regardant comment nous pouvons produire en priorité sur le sol européen.
Des questions qu'on avait commencé à évoquer pendant la crise du Covid et rien n'a été réglé depuis.
Oui, tout à fait. Et il aura fallu attendre justement des menaces de la part de Donald Trump pour que l'Europe se pose enfin des questions. Alors que ce sont des choses sur lesquelles nous alertons à la France Insoumise depuis très longtemps. Et les membres d'ailleurs du eurodéputés se sont toujours opposés systématiquement à la France Insoumise à tout traité de libre-échange.
Alors que faire dans ce répit de 90 jours? On l'a entendu ce matin, l'Union européenne a décidé à son tour de suspendre sa riposte pour donner une chance aux négociations, dit-elle. Est-ce que c'est la bonne stratégie côté européen?
Alors côté européen, pour l'instant, on a l'impression effectivement que la Commission ne sait pas trop comment réagir en réalité, parce que justement jusqu'ici on était dans un ultra-libéralisme à outrance, on a eu même une proposition zéro droit de douane et donc finalement traité de libre-échange avec les États-Unis sur l'industrie. C'est pas possible, on ne peut pas réfléchir comme cela. Au contraire, nous devons profiter de ces 90 jours pour mettre en place un réel plan de souveraineté et notamment au niveau français par exemple, nous devons privilégier dans les marchés publics par exemple les producteurs locaux. Nous devons conditionner les aides publiques que nous donnons aux grandes entreprises au fait de maintenir les emplois en France et de cesser les délocalisations. Nous devons arrêter d'importer des produits agricoles qui ne respectent pas les normes françaises.
Est-ce que le gouvernement doit s'engager sur des mesures de soutien pour les secteurs impactés, pour les entreprises, mais également pour les Français, alors même qu'on annonce déjà, par exemple, 10 000 emplois menacés dans le secteur automobile?
Oui, tout à fait. On doit soutenir notre industrie et justement profiter de cela pour créer une vraie planification. En fait, on doit arrêter de subir. On doit planifier maintenant pour aller vers une véritable souveraineté sur le secteur automobile, sur le secteur énergétique également. Aujourd'hui, Au contraire, on est en train de fermer les seules petites industries qu'on a sur le photovoltaïque. Si demain, on veut vraiment être souverain en énergie, on a du potentiel pour mettre du photovoltaïque
là,
sur nos toitures.
Mais là, il faut aller vite, on a 90 jours.
Il faut déjà commencer par planifier. Saisissons vraiment l'opportunité. Et il y a des choses qu'on peut faire tout de suite. Par exemple, cesser d'importer en France des produits qui ne respectent pas les normes françaises en matière agricole en mettant des clauses en ce sens.
Manon Meunier, une dernière question très politique. En quelques mots, dans ces conditions, dans cette période d'incertitude et de difficultés budgétaires, on le sait, la France est à l'os. Est-ce que la question d'une censure du gouvernement doit encore se poser? Est-ce que LFI y travaille?
Bien sûr, nous souhaitons toujours censurer ce gouvernement.
Malgré les circonstances actuelles, la crise actuelle.
Il faut regarder ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Un projet de loi absolument désastreux qui fait tomber des normes sociales, environnementales et démocratiques. Il faut censurer ce gouvernement qui ne fait que revenir en arrière sur nos droits.
Merci Manon Meunier d'être passée à RFI, députée LFI.
Merci, bonne journée à vous. Merci.
Véronique Rigolet et Manon Meunier, cet entretien à retrouver sur notre site internet rfi.fr.
RFI, la France à midi.
Le Salon du Livre ouvre ses portes aujourd'hui à Paris, d'abord pour les professionnels, puis pour tous, pendant 3 jours. Mais la lecture a de moins en moins la cote en France. C'est le Centre National du Livre qui nous l'apprend. Bonjour Edmond Sadaka.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Ce centre publie une étude montrant une baisse catastrophique du temps de lecture.
En effet, tous les indicateurs sont au rouge et tout le monde est concerné, toutes les générations et toutes les couches socio-professionnelles. D'après cette étude réalisée par le CNL avec l'Institut Ipsos, moins d'un Français sur deux, 45% très exactement, lit tous les jours ou presque, que ce soit au format papier ou au format numérique. Écoutez Régine Hatchondo, la présidente du Centre National du Livre.
Ce qui nous a le plus surpris, hein, c'est à la fois les lecteurs réguliers. Jusqu'à présent, le noyau des lecteurs réguliers était très stable. Donc, cela veut dire que dans les tranches qui sont aussi des tranches d'âge à partir de 50 ans, là aussi, la baisse est notable. Les lecteurs à partir de l'âge de 50 ans lisent moins.
Alors, ceux qui lisent le plus, ce sont les 25-34 ans avec 27 livres en moyenne par an, soit plus du double des 35-49 ans. Il y a aussi tous ceux qui ne lisent pas du tout et qui eux aussi sont de plus en plus nombreux. Un Français sur cinq dit aujourd'hui ne pas pratiquer la lecture, toujours d'après cette étude qui a porté sur un échantillon de 1000 personnes.
Et comment expliquer ce désamour pour la lecture?
Alors, parmi les raisons invoquées par les Français, il y a le manque de temps qui vient en tête, suivi par la préférence pour d'autres loisirs. Mais le facteur principal, eh bien, ça reste évidemment l'omniprésence des écrans. En moyenne, les Français passent près de 3h30 par jour devant un écran pendant leur temps libre. C'est l'équivalent du temps qu'ils consacrent par semaine à la lecture. Et les plus grands consommateurs d'écran sont sans surprise les plus jeunes, les 15-19 ans, avec plus de 5 heures d'écran par jour en moyenne.
Et puis quand les Français, jeunes ou moins jeunes, lisent un livre, eh bien souvent le smartphone reste à portée de main.
Exactement, tout en feuilletant leurs livres, plus d'un quart d'entre eux admettent qu'ils envoient des messages et qu'ils vont sur les réseaux sociaux. Certains même regardent des vidéos. Difficile évidemment de se faire emporter par un récit lorsqu'on a l'œil rivé sur son téléphone. Alors comme les écrans ne sont pas prêts de disparaître, y aurait-il des mesures qui pourraient aider à réconcilier les Français avec le livre? On retrouve Régine Hatchondo, présidente du CNL.
Je pense qu'il faut moderniser certainement la manière dont on parle de lecture. La lecture est souvent associée à une contrainte pour les jeunes et je pense qu'on a aussi beaucoup de travail à faire pour donner envie de lire et renouer avec la lecture plaisir, la lecture loisir. Je pense au transport, où j'adorerais par exemple qu'on puisse avoir des boîtes à lire dans les trains, dans les métros, parce que le transport est encore un moment où les Français lisent.
Enfin, la bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que plus de 70% des 15-24 ans disent qu'une recommandation qu'ils ont vue sur les réseaux sociaux peut leur donner envie d'acheter un livre. Des réseaux sociaux qui d'ailleurs participent souvent à l'émergence de nouvelles tendances, même si le conseil de lecture le plus efficace, eh bien, ça reste le bouche à oreille.
Edmond Sadaka, vous restez avec nous sur RFI, on se retrouve dans une minute pour parler de l'actualité européenne et puis à midi, temps universel, vous le savez, le grand journal de la mi-journée, l'essentiel de l'actualité internationale. À tout de suite.
RFI, la sélection du mois.
Florence Adoni. C'est où Georges?
RFI Musique.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
L'énigme du paradis perdu. Avant d'être un désert, le Sahara était un espace verdoyant où l'on chassait le lion et l'autruche, où des sociétés complexes se sont développées, voyage dans la Tassili-Nagère, où les scientifiques cherchent à percer les derniers secrets du Sahara vert.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.